Vous écoutez, on lit pour vous.
Du pont Jacques-Cartier à la prison, des activistes écologistes dénoncent du profilage politique. Un texte de Salomé Marie, paru le 12 décembre 2025 dans le magazine Urbania. Un peu plus d'un an après avoir été arrêté et emprisonné pour avoir escaladé le pont Jacques-Cartier dans le cadre d'une action écologiste, les militants Olivier Huard et Jacob Pierrot ont déposé une requête visant à faire cesser le procès qui les expose à une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Leur principal argument? Ils avancent avoir été victimes de profilage politique ayant mené à un traitement d'une sévérité rare et inhabituelle. En parallèle, des groupes de défense des droits humains sonnent l'alarme et dénoncent une montée de la répression à l'égard des militants écologistes. Un bref rappel des faits. « Le pétrole nous tue !» Ce sont les mots qu'on pouvait lire sur une des banderoles rouges qu'ont déroulées les activistes Olivier Huard et Jacob Pierrot au sommet du pont Jacques-Cartier le 22 octobre 2024. Par cette action, les militants des collectifs Antigone et Dernière Génération Canada exigeaient la fermeture de l'oléoduc 9B allant de l'Ontario à Montréal. Huard et Pierrot avaient également bloqué le terminal Valero dans l'est de Montréal dans le cadre d'une action en 2022. Ils tentaient aussi, et surtout, d'attirer l'attention sur l'urgence climatique. Leur action ultra-médiatisée, qui a bloqué la circulation pendant près de 7 heures, a mené à leur arrestation ainsi qu'à celle de leur collègue Michel Lavoie, qui était la liaison police dans cette affaire, un rôle qui consiste à communiquer en toute transparence avec la police et à collaborer avec elle afin de favoriser le bon déroulement de l'action. La militante n'a pas escaladé le pont, mais a tout de même été arrêtée en plus de passer quelques jours en prison. Quant à eux, Pierrot et Huard ont respectivement passé 7 et 10 jours en détention dans des conditions qu'ils décrivent comme inhumaines. Ils ont tous les trois accepté des conditions de remise en liberté qu'ils considèrent abusives. Parmi celles-ci, l'interdiction de parler de l'affaire aux médias et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une interdiction de se trouver dans un rassemblement public de plus de 3 personnes. Selon leur avocate et la Ligue des droits et libertés, il s'agit de jamais vu pour des actions militantes du genre. Ces conditions ont fini par être abandonnées pour les 3 activistes. Initialement accusés d'actes criminels, soit méfaits et entraves au travail des policiers, Huard et Pierrot étaient exposés à une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Ils ont exercé leur droit d'option pour un procès devant jury. Mais, en février 2025, le ministère public a déposé de nouvelles accusations par procédure sommaire, puis a fait suspendre le dossier par acte criminel. Résultat, la peine d'emprisonnement maximale à laquelle ils sont maintenant exposés est de 2 ans, mais ils ont perdu la possibilité d'un procès devant jury. Ce procès concernant leurs conditions est prévu pour février 2026. Mais voilà que les 2 grimpeurs ont déposé une requête d'arrêt de procédure pour abus. Les audiences avaient lieu dernièrement. Voici ce qui s'y est passé. Un système qu'on sait qui est souvent contre nous. Devant le palais de justice de Montréal, Olivier Huard a le bout du nez rouge. Entre ses mains, il tient une banderole sur laquelle on peut lire « Crime, crise climatique » dans la couleur rose emblématique du collectif Dernière Génération Canada. En ce moment, c'est la répression des militants qui s'exerce au lieu de travailler sur le vrai problème qui est la crise climatique, déplore l'activiste, qui s'apprête à entrer dans la salle d'audience. Face à cette répression dont il estime avoir été victime, l'activiste sent le devoir de faire valoir ses droits fondamentaux. C'est une question de principe. Puis, il faut savoir quand se battre pour ses principes. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent au front. Il n'est pas le seul à s'être levé tôt ce matin pour affronter le froid de décembre et faire partie de cette petite manifestation de soutien. Plus d'une dizaine de militants sont venus les soutenir, lui et son co-accusé et ami, Jacob Pirot, qui est accessoirement le fils de sa conjointe. Ce dernier est justement là, quelques pas plus loin, tremblant de froid, des hot shots et un café brûlant entre les mains. J'ai l'impression d'encore une fois remettre notre sécurité, puis la sécurité de beaucoup de militants et militantes au Québec, entre les mains d'un système qu'on sait qui est souvent contre nous, s'inquiète-t-il. Il craint que leur possible inculpation ne crée un dangereux précédent. La rapporteure spéciale des Nations unies sur les défenseurs des droits humains, Mary Lawler, est du même avis. Elle a sonné l'alarme sur le traitement des deux militants dans une publication X dernièrement. Selon elle, leur éventuelle condamnation créerait un dangereux précédent pour le traitement sévère réservé aux défenseurs du climat au pays. C'est l'endroit le plus violent que j'ai vu de ma vie. Pour sa part, Michel Lavoie explique que si elle a participé à l'action du pont Jacques-Cartier, c'est qu'elle se croyait complètement à l'abri d'accusations, son rôle de liaison police étant historiquement sans risque d'arrestation. Interrogée en tant que témoin, elle explique avoir perdu toute confiance envers le système judiciaire, elle qui a échoué au centre de détention pour femmes Leclerc à la suite de son arrestation. Une prison connue pour ses conditions difficiles. Même si elle considérait abusives les conditions de remise en liberté qui lui ont été proposées, parmi elles celle de ne pas parler aux médias, elle les a tout de même acceptées, voulant à tout prix se sortir de là. « J'ai accepté parce que c'était l'enfer ici. C'est l'endroit le plus violent que j'ai vu de ma vie », lance-t-elle avec émotion, précisant que la violence ne venait pas des femmes. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ, avait d'ailleurs dénoncé cette condition, la qualifiant d'un dérapage inquiétant. La Fédération avait aussi critiqué un commentaire du ministre François Bonnardel sur la médiatisation de l'action du pont Jacques-Cartier, dans lequel il affirmait qu'il était déplorable qu'on donne un micro à des anarchistes. Par ailleurs, Michel Lavoie dénonce les irrégularités dans le traitement qu'elle et les deux grimpeurs ont reçu. On nous a envoyés en prison. On nous a traités comme si on était de dangereux criminels pour la société, avec des accusations par acte criminel, puis au moment où on fait valoir notre droit d'avoir un procès devant jury, finalement on nous dit « c'était pas si grave que ça, voire sommaire », dit-elle. L'erreur est humaine. De toute évidence, la procureure de la Couronne ne nous avait pas accusés dans la bonne catégorie et ils nous ont envoyés en prison, mais ce serait le fun que cette erreur-là soit reconnue. Des conditions inhumaines. Le Spider-Man des pauvres, c'est le surnom qu'auraient donné les gardes de la prison Rivière-des-Prairies à Jacob Pirot durant les 7 jours qu'il y a passé à la suite de son arrestation. C'était une des multiples blagues que lui lançaient les gardes en lien avec son action, avance-t-il. Vêtu d'un complet fripé, celui qu'il possède depuis le secondaire, le jeune militant témoigne devant la juge Springate, la voix chevrotante, des conditions de détention inhumaines dans lesquelles il s'est trouvé à la prison montréalaise où il était détenu avec Huard. Il raconte avoir été détenu dans une salle étroite avec 16 autres détenus et une seule toilette. On dormait épaule à épaule, illustre-t-il. Il rapporte que le simple accès à l'eau potable était difficile et qu'il leur fallait faire bouillir l'eau du lavabo qui contenait des petits spots noirs dans une machine à café brisée pour ensuite la faire refroidir et la boire dans le berlingot du matin qu'il leur fallait préserver faute de verre disponible. De plus, le grimpeur explique que de tout son séjour en prison, on ne lui a jamais remis sa carte à puce contenant de l'argent lui permettant de faire des appels téléphoniques. C'est en échangeant ses repas avec un autre détenu qu'il a réussi à appeler son avocate pour l'informer de sa détention. Pierrot le répète à plusieurs reprises durant son témoignage. Il a un petit gabarit et sentait qu'en prison, son intégrité physique était menacée. C'est pourquoi il a accepté des conditions de remise en liberté qu'il considère antidémocratiques. « C'était pour sortir de prison où je me sentais menacé. » Il considère donc que son consentement libre et éclairé a été compromis. Allégation de profilage politique. Pour Laurence Guénette, coordonnatrice et porte-parole de la Ligue des droits et libertés, les conditions de remise en liberté imposées aux accusés étaient abusives et hors de l'ordinaire et leurs conditions de détention problématiques, bien que ces dernières fassent partie d'une réalité beaucoup plus large qui se doit tout de même d'être dénoncée. Selon elle, c'est la disproportion des mesures qui leur ont été imposées qui nous donne la puce à l'oreille par rapport au fait qu'il y a probablement eu du profilage politique. Ce genre de profilage-là, ajoute-t-elle, c'est pas seulement ici que ça a été observé dans les récentes années, c'est au niveau mondial. Il y a vraiment une sévérité accrue par rapport à ce genre d'action-là, particulièrement quand ça concerne le climat. La décision de la Cour devrait être rendue avant la date du procès en février. Elle est attendue avec impatience par la communauté écologiste. C'était du pont Jacques-Cartier à la prison, des activistes écologistes dénoncent du profilage politique, un texte de Salomé Mahari, paru le 12 décembre 2025 dans le magazine Urbania.
Le fortin de Madeleine de Verchères se trouverait sous un stationnement. Un texte de Dave Noël, paru le 14 janvier 2026 dans Le Devoir. Les vestiges du fortin défendu par Madeleine de Verchères contre les Iroquois en 1692 se trouveraient sous la surface d'un stationnement de Verchères. Les fouilles réalisées aux alentours n'ont toutefois pas permis de trouver l'endroit exact où s'est illustrée celle que l'on présentait autrefois, comme la Jeanne d'Arc du Canada français. L'emplacement du célèbre fortin a été circonscrit à la suite d'une analyse cadastrale minutieuse du chercheur Jacques Boisseau. Il n'y a pas un beau X qui le positionne sur une carte, prévient Gina Vincelli de la firme archéologique Artefactuelle. Le fortin pourrait également être un peu plus à l'est, vers Contrecœur. L'hypothèse principale situe toutefois l'ouvrage fortifié à l'ombre du monument de Madeleine de Verchères, sous une mince couche de bitume qui l'aurait encapsulée. Il y a des chances que les niveaux archéologiques aient été préservés, explique Gina Vincelli. Le fortin de Verchères était formé d'une palissade de gros pieux de 4 mètres de haut, dont les abords étaient protégés par un fossé humide alimenté par le ruisseau Jarret. En plus du manoir seigneurial du père de Madeleine, on y trouvait un entrepôt à munitions et des bâtiments de service. La grande région de Montréal comptait une trentaine de fortins de ce type, au plus fort des guerres iroquoises de la fin du 17e siècle. L'attaque. Madeleine de Verchères se trouve à 400 pas du fortin familial le matin du 22 octobre 1692, lorsqu'elle aperçoit les Iroquois surgir des buissons. Fuyant à toutes jambes, l'adolescente de 14 ans gagne l'enceinte palissadée, dont elle referme la porte derrière elle. Les parents de Madeleine sont absents au moment de l'attaque. Leur modeste fortin n'est défendu que par deux soldats visiblement terrorisés. « Aux armes !» lance Madeleine avant d'allumer la mèche du petit canon servant à alerter les paroisses avoisinantes. Coiffée d'un chapeau de soldat, la jeune fille se déplace d'un bout à l'autre de l'enceinte pour donner l'impression qu'elle est défendue par une forte garnison. « Je conserverai dans ce fatal moment le peu d'assurance dont une fille est capable, » écrira-t-elle. Les Iroquois n'insistent pas. Ils ont déjà levé le blocus du fortin à l'arrivée des secours de Montréal. Madeleine de Verchères a laissé deux récits de l'attaque iroquoise. Elle rédige le premier en 1699 dans une lettre visant à obtenir une pension du roi. Le second texte aurait été composée en 1732 pour impressionner la cour de Versailles dans le cadre d'un procès scabreux l'opposant au curé de Batiscan. L'exotisme est au rendez-vous dans ce récit revu et augmenté destiné au public français. En témoigne cette neige mêlée de grêle qui se serait soi-disant abattue sur le champ de bataille en plein mois d'octobre. L'autrice y ajoute d'autres détails étonnants, comme cette sortie du fortin visant à récupérer du linge étendu sur une corde sous le nez des assiégeants iroquois. En lisant la relation de Madeleine à voix haute, on peut entendre l'accent de la Canadienne qui prononçait « Verchir, mon père et mon frère ». Mythe. Si elle a favorisé la renommée initiale de Madeleine, la réécriture du récit original de 1699 a contribué à la remise en cause de son exploit. À peu près tout dans cette histoire est invraisemblable, écrivait l'historienne Louise Deschênes en évoquant une pieuse invention. Un affrontement a bel et bien eu lieu à Verchères en 1692, comme en témoigne le bref compte-rendu du gouverneur de Montréal qui rapporte la mort et la capture d'une poignée d'habitants par les Iroquois. Son ampleur demeure toutefois un mystère. Il y a quelque chose qui est arrivé et Madame de Verchères était impliquée là-dedans, commente prudemment l'historien Colin Coates en entrevue au Devoir. À l'époque moderne, des femmes ont pris part à la guerre en se déguisant en hommes. Et c'est ce que Madeleine de Verchères explique dans son récit. Elle a mis le chapeau de soldat pour prendre ce rôle. Contrairement à Jeanne d'Arc, la Canadienne a survécu à son fait d'armes. Elle est décédée en 1747, à 69 ans, dans la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérane, où elle s'était établie après avoir épousé le seigneur du lieu. Bronze. Le combat livré par Madeleine de Verchères a été publicisé de son vivant par les écrits de la poterie et du jésuite Charlevoix. Il a été repris au milieu du 19e siècle par les premiers historiens du Canada français. Son fait d'armes a notamment interpellé Lord Grey, le gouverneur général du Dominion du Canada, qui a contribué au financement du bronze de l'héroïne inauguré à Verchères en 1913. Pour cet aristocrate britannique, l'œuvre du sculpteur Louis-Philippe Hébert était l'antithèse de l'individualisme américain incarné par la Statue de la Liberté à New York. Jusqu'à la Révolution tranquille, Madeleine de Verchères a personnifié la martialité féminine canadienne-française. Le journal La Patrie attribue ainsi son nom aux mères de famille de la Rive-Sud, dans la région de Montréal, qui se sont armées de carabines pour défendre leur bungalow contre des voyous rôdant dans la banlieue en 1965. L'ennemi n'a plus de plumes, mais il sème la panique, lit-on dans le reportage. Le souvenir de Madeleine de Verchères s'est dissipé dans le dernier demi-siècle, à l'instar de celui d'Adam Dollard des Ormeaux, qui s'était lui aussi fait un nom en défendant son fortin contre les Iroquois en 1660. Les figures martyrologiques des soulèvements patriotes de 1837-1838, comme Jean-Olivier Chénier et Chevalier de Lorimier, ont pris le relais dans la foulée de la Révolution tranquille. Chaque génération a les récits qui lui parlent, rappelle l'historien Colin Coates, en revenant sur la mémoire de Madeleine de Verchères. Quelqu'un qui a mené une défense lors d'une attaque autochtone, c'est un peu plus difficile à présenter aujourd'hui. Moulin. Les fouilles réalisées au pied du moulin de Verchères en novembre 2025 ont révélé une poignée d'artefacts contemporains de la structure érigée au début des années 1730. Un vide laissé par un gros pieu a également été trouvé. On n'est pas prêt à dire que c'est lié au fortin de Madeleine de Verchères, car ça pourrait être une clôture, indique l'archéologue Gina Vincelli. En l'absence de bois, il ne sera pas possible de dater ce vestige. C'était « Le fortin de Madeleine de Verchères se trouverait sous un stationnement ». Un texte de Dave Noël, paru le 14 janvier 2026 dans Le Devoir.
Merci, Donald. Un texte de Jean-François Lisée publié dans Le Devoir du 13 décembre 2025. Grâce à vous, l'attrait touristique du Québec et son pouvoir d'attraction tout court sont à la hausse. Cher président américain, jusqu'à présent, nous, Québécois, avions de bonnes raisons d'être fâchés contre vous. Vous avez frappé notre industrie du bois et de l'aluminium de tarifs absurdes, et vous nous avez conduits, pour nous protéger contre vous, à élire comme premier ministre canadien quelqu'un que l'on ne connaissait à peine, Mark Carney. Nous commençons d'ailleurs à douter de la qualité de notre choix. Mais ces jours derniers, cher Donald Trump, vous nous avez fait tout un cadeau. Vous avez annoncé aux touristes de 42 pays exemptés de visa que, pour entrer chez vous, il leur faudrait désormais laisser vos douaniers consulter leur activité des 5 dernières années sur les réseaux sociaux. Même si notre compte Facebook, par exemple, n'est pas destiné au public, mais à nos seuls amis. L'objectif, a-t-on expliqué, est de refuser l'entrée à ceux qui détestent votre pays. Une critique même féroce de votre auguste personne ne suffirait pas à nous fermer la porte, dites-vous. Comprenez-vous pourquoi des millions de personnes qui, autrement, auraient voulu visiter votre pays pourront décider de ne plus y aller? Déjà, depuis votre arrivée en janvier dernier, on a noté que 8,7 millions de touristes de moins ont traversé votre frontière par rapport à la même période de l'an dernier. La courbe va bientôt piquer du nez, grâce à vous. Elle s'étendra à d'autres qu'aux touristes, chercheurs, spécialistes, entrepreneurs même, peut-être. En quoi cela nous met-il de bonne humeur? D'abord parce que cela met un baume sur les chocs économiques que vous nous avez infligés. Nous avons déjà, depuis le début de l'année, enregistré une hausse de notre tourisme, à la fois parce que nous sommes restés chez nous plus tôt que de vous visiter, et parce que davantage d'Ontariens et d'Européens sont venus nous voir. Plusieurs de nos régions ont affiché l'été dernier leur meilleure saison touristique depuis 2015. Nos centres des congrès profitent également de votre fermeture d'esprit. Seulement cette année, 7 congrès internationaux qui devaient avoir lieu chez vous ont été organisés à Montréal. À mon avis, il faudra agrandir nos salles. Votre propension à repousser les voyageurs n'arrive pas seule. Il faut avoir la franchise de le dire. D'autres destinations, naguère alléchantes, présentent désormais des dangers. Il n'y a qu'à consulter la page « Conseil aux voyageurs » du gouvernement canadien pour perdre le goût du voyage. À la rubrique « France », on lit « Faites preuve d'une grande prudence en France en raison de la menace terroriste élevée. » Pourquoi? Citation « En France, au cours des dernières années, différents attentats opportunistes et prémédités ont eu lieu. Ceux-ci ont fait de nombreux morts et blessés. Il est fort probable que d'autres attentats surviennent. » Fin de citation. Bon, il ne faut pas paniquer, nous avertit-on. Il suffit, pour visiter en toute quiétude, d'éviter les endroits suivants, prisés par les terroristes. Les édifices gouvernementaux, y compris les écoles, les lieux de culte, les lieux culturels, y compris des salles de concert, des boîtes de nuit et des centres d'événements, les aéroports, les endroits publics comme les attractions touristiques, les restaurants, les bars, les cafés, les centres commerciaux, les marchés, les hôtels et autres lieux fréquentés par les étrangers. La même prudence nous est suggérée par Ottawa si on souhaite visiter l'Allemagne. Mais on met à cet endroit l'accent sur le crime. Voyez, citation, les groupes organisés de voleurs utilisent souvent des techniques de distraction et sont particulièrement actifs dans les zones suivantes, les principales villes, les plaques tournantes de transport, les transports publics, les marchés de Noël, les attractions touristiques. Fin de citation. Bref, si vous évitez les villes et les attractions touristiques, tout ira bien. Et fuyez les trains. Citation, on constate une augmentation significative du nombre de passeports volés dans les trains surtout pendant la période des vacances d'été et d'hiver. Fin de citation. La notice sur le Royaume-Uni n'est guère plus rassurante. Citation. Au Royaume-Uni, des attentats ont déjà fait des victimes. Il s'agissait d'agressions violentes conduites au hasard dans des lieux publics, telles que des attaques au couteau, au camion bélier ainsi que d'explosions. Fin de citation. On nous invite aussi à éviter de nous approcher des manifestations qui peuvent tourner au vinaigre. Il est étonnant de constater que la Bulgarie ou la Roumanie sont considérées comme plus sûres pour le touriste que plusieurs grands pays d'Europe de l'Ouest. Et comme il est recommandé de n'aller ni en Russie, ni en Ukraine, ni en Iran, d'éviter plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, la destination québécoise ne s'impose-t-elle pas? Les autres pays dispensent aussi leurs conseils aux voyageurs. Au sujet du Canada, le ministère français des Affaires étrangères sert une mise en garde péremptoire. Compte tenu de l'étendue du pays, attention aux pannes d'essence. Aussi, l'hiver, il fait froid. D'autant que, citation, la présence d'animaux sauvages aux abords des routes peut présenter un danger en cas de vitesse excessive. Fin de citation. Les autorités du Royaume-Uni ont une vision moins bénigne de notre tranquillité. Citation. Les terroristes sont susceptibles de tenter de commettre des attentats au Canada. Ces attaques pourraient être indiscriminées et viser notamment des lieux fréquentés par des ressortissants étrangers. Fin de citation. N'exagère-t-il pas un peu? On peut le penser lorsqu'ils avisent les voyageurs visitant le Canada de se, guillemets, familiariser avec les consignes de sécurité à suivre en cas de séisme ou de tsunami. Fin de citation. Tsunami au Canada? Tout bien considéré, cher Donald, votre pays était jusqu'à votre retour notre principal concurrent dans l'attrait de touristes et dans le pouvoir d'attraction tout court. Aucune campagne publicitaire n'aurait pu détourner vers nos destinations autant de touristes et autres activités en tout genre que votre récente décision de vous mettre le nez dans nos photos de chatons et de mariages. Nous sommes, grâce à vous, à l'aube d'une nouvelle ère. Et c'est ainsi que Jean-François Lisée termine cette chronique qu'il a titrée « Merci Donald », publié dans Le Devoir du 13 décembre 2025.